Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce matin, nous arrivons dans notre étude de la parole de Dieu, un passage magnifique et exaltant pour les chrétiens. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, à Matthieu chapitre 24, et nous examinerons les versets 29 à 31. Un texte profond sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ceux d'entre nous qui connaissons et aimons le Seigneur, ceux de nous qui étudions sa parole, sommes tout à fait conscients du fait que le monde aura une fin. Le monde tel que l'homme le connaît, le monde tel que l'homme le gouverne, finira par la venue glorieuse de Jésus-Christ du ciel sur la terre. C'est sa seconde venue. La première fois, il est venu dans l'humiliation. La première fois, il est venu pour mourir sur une croix. La prochaine fois, il viendra dans la gloire, et il viendra pour régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Le Seigneur voulait instruire ses disciples au sujet de sa seconde venue, et il en a spécifiquement parlé dans ces trois versets de Matthieu 24. Je voudrais que vous y fassiez attention pendant que je les lis. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Ici, dans des termes clairs, concis, directs et compréhensibles, le Seigneur en personne nous parle du plus important événement qu'attend tout croyant, qui est la seconde venue de Jésus-Christ. Il est venu une fois, il reviendra. En fait, lors de son ascension, nous est-il dit dans Acte 1, en quittant la terre à la fin de sa première venue, il est monté au ciel physiquement, corporellement, et fut enlevé dans une nuée. Et deux anges sont venus en disant, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Autrement dit, comme il est parti, de même, il reviendra, physiquement, corporellement, dans les nuées, comme il est parti. » Le même Jésus de la même manière. Et depuis ce moment-là, les croyants ont eu le cœur rempli d'espérance au cours de toute l'histoire de l'Église, attendant la venue du Seigneur Jésus-Christ. En fait, l'apôtre Paul, écrivant à Tite, disait au chapitre 2, verset 11, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Il dit ici que nous qui sommes sauvés, devrions vivre droitement, sobrement, renonçant à l'impiété, renonçant aux convoitises du monde, et attendre la glorieuse arrivée de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, tout comme nous devrions vivre dans l'obéissance, comme nous devrions vivre une vie de droiture, comme nous devrions vivre une vie dont les priorités suivent les normes de Dieu, de même, il faut que notre vie soit centrée sur le retour de Jésus-Christ. Nous devons vivre à la lumière de la venue de Christ, où, comme le dit Paul aux Philippiens, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. C'est notre espérance, c'est notre gloire. Or le monde connaît bien les circonstances et les éléments de la première venue de Christ. Le monde connaît bien Bethléem, avec la mangeoire, avec les bergers et les mages, une étoile et Hérode. Le monde connaît bien Joseph, Marie, l'or, l'encens et la myrrhe et le chant des anges. Il connaît presque par cœur cette histoire. Mais le monde est beaucoup moins versé dans l'histoire de sa seconde venue, avec tous ses éléments, et toutes les circonstances qui y sont attachées. Et pourtant les prophètes nous ont donné, y compris Jésus lui-même, le plus grand de tous les prophètes, un enseignement très clair sur le caractère, les traits de la seconde venue glorieuse de Jésus-Christ. Et dans les trois versets que je viens de vous lire, notre Seigneur en personne décrit sa seconde venue. Il n'inclut pas tous ces éléments, mais le moment précis où elle survient, le signe indiquant qu'elle est arrivée. Et il y a tant dans cet enseignement qu'en une seule séance, nous ne pourrions jamais tout traiter. Même si ses paroles sont brèves, il est caractéristique du Seigneur de dire ce qu'il veut très précisément et de manière très concise. Mais il a une façon d'ouvrir tout un univers de vérité dans sa merveilleuse capacité de choisir ses mots. Ainsi, alors que nous pouvons lire ce qu'il dit et le comprendre, cela dépasse nos capacités de saisir les implications de tout ce qu'il dit, et nous nous sentons comme de petits enfants essayant de comprendre ce qui est complexe. Si nous essayons d'en tirer tout ce qu'il y a à en tirer, mais nous voyons ce que le Seigneur voudra nous montrer en examinant ces trois versets incroyables. Donc, la meilleure manière de traiter ce passage est simplement d'accrocher vos pensées à quelques mots-clés, d'accord? Le premier mot-clé est « chronologie ». La chronologie de la seconde venue, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse. Or, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat pour trouver cela. C'est assez évident. Les gens disent « Quand aura lieu le retour ?» Quand arrivera le retour? La réponse est assez simple. Aussitôt après ces jours de détresse. C'est ce qui est dit. Un indicateur chronologique très clair pour nous que le retour du Seigneur en gloire pour établir son royaume suivra immédiatement cette période appelée la tribulation. Maintenant, quelqu'un dira, « Bon, il y a plein de tribulations. » Tribulation est un mot grec, « thlipsis ». Il veut dire trouble, difficulté, épreuve, détresse. Et vous pourriez dire, Israël a toujours vécu dans la détresse et la tribulation, et l'Église a toujours vécu des détresses et des tribulations, et le monde a toujours vécu des détresses et des tribulations. Et c'est pourquoi Jésus dit, immédiatement après ces jours, ce n'est pas n'importe quelle tribulation, mais celle de ces jours-là. Vous direz, quel jour? Les jours qui viennent d'être décrits, du verset 4 jusqu'au verset 28, c'est, nous rapporte aux quelques jours qu'il vient de décrire. Quels sont les jours qu'il vient de décrire? Ce sont des jours de sérieuses tragédies. En fait, ils sont si graves que le verset 21 dit ceci. Car alors la détresse, pas simplement une détresse quelconque, mais quoi? Elle sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Ce n'est pas de n'importe quelle tribulation qu'il parle, c'est de la tribulation la pire que le monde a connue. Il parle d'une période qui est la pire que le monde a eu à traverser. Vous direz, quelle période est-ce? Eh bien, c'est une période qui débute par un événement spécial. Verset 15. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Bible du Semeur. Et nous avons parlé du fait que cet événement appelé, dans certaines traductions, l'abomination de la désolation, est une profanation de ce qui est sacré, et c'est la destruction de ce qui est consacré à Dieu, qui donne le coup d'envoi de cette période de grande tribulation. Vous souvenez-vous de ce que nous vous avons dit? Au temps de la fin, Israël sera dans son pays. Il aura reconstruit le temple. Il adorera Dieu. Il sera protégé par l'Antichrist. Mais au milieu de la période de 7 ans dont parle Daniel, il fait un pacte avec lui. En Daniel 9, il dit qu'au milieu de cette période, l'Antichrist rompra cette alliance. Et il va profaner, c'est-à-dire qu'il va désacraliser, blasphémer le lieu saint des Juifs. Il mettra à bas l'autel de Dieu, établira un autel pour lui. Il se fera le Dieu du monde. Et ceci nous est raconté non seulement par le prophète Daniel, mais aussi par Jean dans l'Apocalypse. Il devient celui qu'il faut adorer. C'est pourquoi il désacralise, il commet une abomination. Et lorsque cela arrive, et qu'il appelle le monde entier à l'adorer, alors le signal est donné que la tribulation a commencé. Et les événements de la tribulation sont décrits d'une manière générale dans les versets 4 à 14. C'est un temps de tromperie, c'est un temps de guerre, c'est un temps de famine et de séisme, c'est un temps de persécution et de haine, c'est un temps de fausses prophéties, c'est un temps où le mal est si généralisé que beaucoup de gens qui semblent être religieux vont lâcher la religion et s'abandonner au mal. En d'autres termes, ce sera la période la pire que le monde a connue. Ce sera un temps, nous le voyons au verset 21 et les suivants, sans équivalent, et à moins que les jours ne soient abrégés, c'est-à-dire que la lumière du jour ne soit condensée, personne ne survivrait. De faux prophètes partout, et une terrible corruption coupable, qui est décrite comme le cadavre d'un animal, au verset 28. Donc survient sur le monde cette période de tribulation pareille à nulle autre, un temps de méchanceté féroce comme aucun autre, un temps de meurtre, un temps de carnage, et l'Antéchrist essaiera de massacrer tous les Juifs, il essaiera de massacrer tous ceux qui voudront nommer le nom de Christ. Et c'est pourquoi le verset 16 dit que quand vous voyez cet événement initial avoir lieu, et l'Antéchrist établir dans le temple son idole qui est lui-même, alors vous faites bien de fuir dans les montagnes, parce que la Judée, où se trouve Jérusalem, sera le centre de son attaque, quand il essaiera d'éliminer le peuple de Dieu, Israël, et tout croyant des nations qui se trouveront là. Donc ce sera un temps comme nul autre pareil. Mieux vaut partir en courant, et en courant vite, espérant que vous ne serez pas enceinte, et que vous ne porterez pas de petits bébés, espérant que ce ne sera pas l'hiver, qu'il ne pleuvra pas, et espérant que ce ne sera pas le sabbat, où vous risqueriez d'être lapidé par quelque légaliste parce que vous courez. Vous faites bien d'espérer que vous réussirez à partir, car un massacre comme aucun autre dans l'histoire du monde aura lieu. Et nous avons vu toutes ces choses en détail ces dernières semaines. Maintenant, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, pas n'importe quelle tribulation, mais la tribulation dont nous avons parlé, des versets 4 à 28. Aussitôt après cela, c'est le moment, c'est la chronologie de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais souvenez-vous que les disciples sentent que ce doit être très proche, parce qu'ils savent que le Seigneur est le Messie, parce qu'il a purifié le temple. Vous, souvenez-vous, il a chassé les changeurs et les marchands, comme les clients, parce qu'il a promis que le temple serait entièrement démoli et qu'aucune pierre ne serait laissée sur une autre. Il croit alors qu'il va venir éradiquer tout le faux judaïsme hypocrite. Il va éliminer les faux chefs religieux. Il va purifier la nation. Et parce qu'ils l'ont déjà vu nettoyer l'intérieur en chassant tout le monde, et qu'il vient de prédire que les pierres seraient démolies, ils croient que sa venue est très, très proche. Et le cœur très anxieux, ils se sont assis avec lui sur le mont des Oliviers, et ils ont dit, « Seigneur, à quel point est-ce proche ?» Et quel signe guettons-nous qui indiquera que tu vas venir dans ta pleine parousia, ta pleine présence, et être roi? Et ils doivent croire que c'est une affaire de jour, maintenant, avant que tout cela n'arrive. Et le Seigneur dit, « Je vais répondre à votre question. Cela ne peut se passer qu'immédiatement après cette période. » Et ils n'ont pas conscience que cette période est encore des milliers d'années dans l'avenir, par rapport à leur temps. Mais notre Seigneur dit très clairement, que ce ne sera pas avant cette période, que la seconde venue sera après. Maintenant, vous vous souvenez que nous avons dit qu'il y aurait un terrible carnage parmi les Juifs, et Zacharie dit que 2 personnes sur 3 seront tuées, et seul 1/3 serait épargné. Dieu sauvera 1/3 d'entre eux. Le reste mourra dans ce terrible holocauste. Il y aura aussi le sauvetage de 144 000 Juifs, 12 000 de chaque tribu, selon Apocalypse 7, de sorte qu'ils puissent évangéliser le monde. Et peu importe ce que peut tenter l'Antéchrist ou n'importe qui d'autre, on ne pourra pas les tuer. Apocalypse 7 dit qu'ils sont scellés et protégés. Aussi au 14e chapitre de l'Apocalypse, lisez ce qui est dit à leur sujet. Donc le Seigneur va épargner certains de ces gens, mais ce sera une période si terrible, à moins d'une protection surnaturelle. Dans le cas du groupe, en général, il semble que c'est Michel, chapitre 12, qui sera celui qui viendra prendre soin d'eux et qui les mettra en sûreté, dans le cas des 144 000 missionnaires juifs, pour qu'ils puissent atteindre le monde. Dieu les protège surnaturellement lui-même, mais le désastre et la mort pourraient atteindre le reste. Alors on leur dit au verset 16 de fuir. Ce ne sera pas très long. La période de la grande tribulation dure combien de temps? 3 ans et demi, c'est tout, et aussitôt après arrive la seconde venue. Maintenant, passons à un second mot. Le premier est la chronologie, le second est la mise en place. Comment le Seigneur met-il l'événement en place? Vous pourriez utiliser le mot scène, scénario, décor, mais le Seigneur installe la scène pour la seconde venue. C'est quelque chose de magnifique. De nouveau, le verset 29. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. Je veux dire, C'est tout simplement incroyable. Tout l'univers tel que nous le connaissons, comme nous en avons l'expérience, commence instantanément à se désintégrer. Au verset 25 de Luc 21, Luc, écrivant essentiellement sur le même discours du mont des Oliviers, ajoute des choses à ce que Jésus a dit. Chaque écrivain complète en quelque sorte ce que le Seigneur a dit. Et Luc dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Or, si vous mettez ensemble Luc et Matthieu, vous obtenez une scène plutôt dramatique. Ce n'est pas seulement le soleil qui s'obscurcit, pas seulement la lune ne donnant plus sa lumière, ce n'est pas que les étoiles qui tombent, ce ne sont pas que les puissances du ciel qui sont ébranlées, comme si la terre était détachée de cela. C'est aussi sur la terre. Et c'est si dramatique et si cataclysmique qu'il est dit que les hommes rendront l'âme de terreur. Le grec dit en fait « les hommes expireront ». Les hommes expireront. Et ce n'est qu'une manière simple de dire qu'ils tomberont morts un peu partout. Les gens vont littéralement tomber raide mort de terreur absolue. Leur cœur s'arrêtera. Apopsucho, ce qui veut dire expirer. Ils pousseront leur dernier soupir. Ils mourront. Lorsque le Seigneur revient en jugement, il frappera de l'épée, sortant de sa bouche les méchants qui ne seront pas morts d'une crise cardiaque ou de la simple terreur qui fera que leurs fonctions vitales se seront arrêtées, tant la terreur sera saisissante. C'est vrai que c'est une chose difficile à comprendre et à concevoir, mais une phrase clé à la fin du verset 29 nous aide un peu pour l'ensemble. Les puissances célestes seront ébranlées. Or, dans les cieux, qui enveloppent tout l'univers, tout se tient ensemble par une force. Il y a un contrôle, une influence qui contrôle. En fait, nous savons quelle est cette force, parce qu'en Hébreux 1, il est dit que le Fils soutient tout. Par quoi ? Par sa parole puissante. C'est Dieu lui-même en son Fils qui tient tout ensemble. Tout comme il a tout créé, il soutient tout afin que la gravité ne change pas, que les orbites ne fluctuent pas. Et nous pouvons envoyer de petits objets dans l'espace et encombrer l'univers de tous nos petits jouets, et nous savons où ils vont aller, et où ils s'arrêteront, et ce qu'ils feront dans leur rotation, et ce qu'ils feront sur leurs orbites. Nous pouvons calculer tout cela grâce aux forces célestes, immuables et fixes, de sorte que les corps se meuvent de manière constante en tout temps, et qu'ils font ce qui est prévu. Nos scientifiques peuvent même prédire mathématiquement des choses, des années, des siècles, des milliers d'années à l'avance, parce qu'ils ont cette uniformité du passé. Les corps célestes sont contrôlés par la puissance de la parole de Dieu qui soutient tout. Mais tout à coup, le Seigneur laisse aller, et les forces qui tiennent normalement l'univers ne le font plus. Et vous avez une bousculade, le chaos, avec tous les corps célestes dérivant, au hasard, à travers l'espace. Et la Terre devient une victime de cet incroyable écroulement de tout l'univers. Mais plus spécifiquement, dit-il, le soleil devient noir. Les applications en sont simplement époustouflantes. Époustouflantes. Plus de lumière solaire. Et l'homme, bien entendu, ne peut survivre sans elle. Le changement de température est cataclysmique. Ensuite, la Lune ne donne plus sa lumière. Évidemment, puisqu'elle la reçoit du Soleil. Les marées sont instantanément chaotiques. Les étoiles commencent à dévier de leur place. En Apocalypse, il est dit que les cieux sont roulés comme un livre, et que les étoiles se mettent à tomber, comme si on secouait des figues trop mûres d'un figuier. Tout l'univers commence à se disloquer, à se désintégrer. Je suppose qu'une faible manière de comprendre ceci pourrait venir de la lecture d'un passage d'un livre de Velikovsky, qui aborde quelques-uns des phénomènes scientifiques relatifs à la Terre. Il dit que si, par exemple, un corps céleste était lâché dans l'espace, et qu'il passait près de la Terre, en faisant pencher la Terre en la déviant, à peine de son axe. Voici ce qui se passerait, et je cite, « À cet instant même, un séisme secourait la Terre. L'air et l'eau continueraient de tourner par la force d'inertie. Des tornades balayeraient la Terre, et les mers se précipiteraient sur les continents, emportant du gravier et du sable, des animaux marins, et les rejetant sur la terre ferme. La chaleur augmenterait, les rochers fondraient, les volcans jailliraient. Et la lave coulerait des crevasses du sol brisé et couvrirait d'immenses surfaces. Des montagnes surgiraient dans les plaines et avanceraient et grimperaient sur les côtés d'autres montagnes, provoquant des crevasses et des fissures. Les lacs se pencheraient et se videraient. les lits des rivières modifieraient leur cours. D'immenses surfaces de terre, avec tous leurs habitants, glisseraient sous la mer. Des forêts brûleraient, et des tornades et mers démontées les arracheraient du sol, où elles grandissaient et les empileraient branches et racines en de gigantesques tas. Les mers deviendraient des déserts, leurs eaux disparaissant. C'est impossible à concevoir. La terre tient ensemble par la puissance céleste, et lorsque cette puissance n'est plus là, le chaos devient indescriptible. Et comment Dieu peut-il seulement préserver la vie pour quelques instants, ou jours, quelques semaines, afin que le royaume puisse être établi? Ceci n'est possible que par son contrôle surnaturel sur le chaos de ses forces naturelles qui se désintègrent. C'est quelque chose que nous ne pouvons qu'imaginer. Maintenant vous direz, autrement dit, le Seigneur dit que juste avant que Christ arrive, ceci va se passer, c'est exact, cela pose le décor. Or ce n'est rien de nouveau. Je voudrais que vous preniez votre Bible et que vous l'ouvriez au 13e chapitre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 13. Et je veux vous montrer quelque chose de fascinant. Beaucoup pensent que le passage d'Ésaïe 13 devrait se rapporter à la destruction de Babylone, que c'est une hyperbole parlant de la destruction de la ville et du royaume de Babylone. Mais il faut que ce soit beaucoup plus que cela. Oui, Ésaïe parle de Babylone. Oui, il prédit la destruction de Babylone. Mais comme si souvent dans l'esprit du prophète, il y a un accomplissement historique et il y a également un accomplissement prophétique pour un futur plus éloigné. Et Ésaïe voit simplement dans la destruction de Babylone, à cause de son péché, un microcosme de ce qui se passera dans la dévastation et la destruction du monde entier à la venue du Seigneur. Remarquez au verset 6. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous se baissent les bras. Tous les hommes se découragent. Ils sont terrifiés. Douleur et souffrance s'emparent d'eux. Ils se tordent de douleur, comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres stupéfaits. Leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur. Et voici un point clé important, qui transformera la terre. C'est bien ce que dit l'Hébreu, la terre, pas simplement Babylone, c'est la terre qui est en vue ici, en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. Maintenant attention. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre, pas Babylone, mais contre, le monde à cause du mal commis. Et contre les méchants, à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents, et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que leurs fins, les hommes plus rares que leurs dauphires. Autrement dit, il y aura un massacre dans le monde entier, quand Dieu jugera les impies et les méchants. Les justes vivront, oui, mais les impies mourront, et les hommes seront plus rares que les pépites d'or d'Ophir. Et le verset 13 dit, « C'est pourquoi j'agiterai le ciel. » Et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le maître de l'univers, le jour de son ardente colère. La terre sera comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger. Chacun se tournera vers son peuple. Chacun se réfugiera dans son pays. Tous ceux que l'on trouvera seront transpercés, et tous ceux que l'on attrapera tomberont sous les coups de l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront violées. Or le prophète voit un jour incroyable. Regardez au chapitre 34 d'Ésaïe. De nouveau ici le prophète Ésaïe voit loin dans l'avenir et dit « Approchez-vous, nations, pour bien entendre. Peuple, soyez attentifs. » Il appelle le monde entier à écouter. Que la terre écoute avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il produit. Donc, il n'y a aucun doute quant à ceux à qui il parle. En effet, la colère de l'Éternel s'abat sur toutes les nations. Et sa fureur sur toute leur armée, toutes ces armées qui se sont rassemblées pour détruire le peuple de Dieu à Jérusalem, dans cette grande confrontation que nous connaissons comme Armageddon. Il les voue à la destruction, il les livre au carnage, dit le verset 2. Leurs victimes seront jetées, leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes ruissellent de leur sang. Tous les corps célestes se désagrègent, le ciel est roulé comme un livre, et tous les corps tomberont comme la feuille de la vigne. Comme celle du figuier. Ainsi, vous savez où le Seigneur et Jean ont tous deux tiré leurs images, n'est-ce pas? Ils les ont tirés du prophète Ésaïe. Et le Seigneur vient avec une épée, au verset 6. Et il vient dans un grand carnage, qui commence dans le pays d'Édom. La raison de la mention d'Édom est que le lieu le plus méridional où cette grande bataille aura lieu sera en Édom. Botsra était la principale ville d'Édom, et la bataille d'Armageddon, dit Apocalypse, est une bataille qui s'étendra sur 300 kilomètres. Apocalypse 14:20. Et si vous mesurez 300 kilomètres depuis Botsra, mentionné ici au verset 6, qui est au nord d'Édom, cela vous mène juste au-delà d'Armageddon, au Liban. Et c'est l'étendue de cette grande destruction finale dans la bataille d'Armageddon. Donc la Bible est très, très exacte en décrivant ce que le verset 8 appelle « le jour de la vengeance pour l'Éternel » et l'année de représailles, c'est-à-dire lorsque Dieu punit l'homme pécheur. Or, le prophète Joël parle exactement de la même chose. Il voit au chapitre 2 une invasion de sauterelles qui, dans un sens, cache le soleil et cache la lune. À cause des milliards impressionnants de sauterelles qui assombrissent le jour et la nuit, qui bloquent la lumière des étoiles. Et il voit ces sauterelles voler dans le ciel, et c'est comme si les cieux tremblaient. Il les voit atterrir sur le sol, et c'est comme si la terre frémissait. C'est au début du chapitre 2, verset 10. Plus loin dans le chapitre, il voit cela comme une illustration de l'ultime tremblement des cieux, et l'ultime tremblement de la terre, et l'ultime holocauste du jugement divin. Alors qu'il vous mène au jugement final dans les versets 3 et 4 du chapitre 3 de Joël. Le prophète Agée, au chapitre 2, versets 6 et 7, décrit la fin du monde dans les mêmes termes. Et vous vous souvenez que Pierre, prêchant la Pentecôte en Actes, chapitre 2, cite la prophétie de Joël, n'est-ce pas ? Le jour viendra où la lune se changera en sang, et le soleil se changera en ténèbres. Toutes ces choses font partie de cet holocauste à venir. Et vous les trouvez aussi en Apocalypse 6, 12 et 13, où nous voyons que le soleil devient noir, la lune s'éteint, et les étoiles se mettent à tomber. Et les gens crient, demandant aux rochers de tomber sur eux pour les cacher de celui qui arrive. Revenant à Matthieu 24, l'imagerie du Seigneur correspond donc à celle des prophètes avant lui, et même après lui, qui écrivent le Nouveau Testament. Donc nous voyons deux mots clés, chronologie, immédiatement après la tribulation, et celui qui est très visible le décor. Troisième mot, signe. Verset 30, signe, très important. Alors le signe apparaîtra. Revenez maintenant au verset 3 du chapitre 24. Il était assis sur le mont des Oliviers, et les disciples se sont approchés de lui en privé en disant « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel signe ? Oh, quand est-ce que tu vas démolir le temple ? Quand vas-tu amener ton royaume ?» Ils supposaient que tout cela arriverait en même temps. Ils ne comprenaient pas la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Ils pensaient que tout allait amener l'installation du royaume. Donc, quand sera-ce, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ? Or, il leur a donné une liste de signes généraux au verset 4 à 14. Il leur a donné le signal qui va tout commencer. Mais il ne leur a pas encore donné le signe. Quel sera le signe de ta venue ? Verset 30. Alors, le signe apparaîtra. Le signe. Quel est le signe ? Eh bien, les anciens, qu'on appelait pères de l'Église, croyaient que ce serait une croix embrasée qui remplirait l'obscurité du ciel. L'univers est désintégré. Il fait un noir total. Et toutes les planètes et corps célestes dérivent en désordre dans l'univers, se heurtant les uns contre les autres dans une obscurité totale. Et les pères de l'Église primitive, Chrysostome, Cyrille de Jérusalem, Origène et d'autres, disaient qu'à ce moment-là, une croix étincelante enflammée apparaîtrait dans le ciel que le monde entier verrait. Mais je ne vois pas cela au verset 30, et vous ? Je ne vois aucune croix. C'est une jolie idée. Je ne la vois pas là. Et d'autres ont dit, « Non, ce sera la gloire de la Shekinah. Ce sera cette lumière aveuglante. Et cela se rapproche de la vérité, je pense. Mais vous ne pouvez pas avoir la gloire de la Shekinah séparément de celui dont elle émane. Donc je pense que si on lit le verset en entier, c'est très clair. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. C'est un génitif subjectif, le signe par lequel il se révèle lui-même, pas le signe de, génitif objectif, de celui vers lequel il pointe. Le signe est le Fils de l'homme dans le ciel, autrement dit. Alors le signe apparaîtra. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Fils de l'homme dans le ciel. C'est le signe. Ce n'est pas une croix. ce n'est pas une lumière détachée du Fils de l'homme, c'est le Fils de l'homme au ciel. Au milieu de cette obscurité, apparaîtra dans une gloire éclatante, infinie, sans voile, le Fils de l'homme. En fait, à la fin du verset 30, il dit qu'il ne viendra pas seulement avec gloire, mais avec quoi? Beaucoup de gloire, une gloire comme le monde n'en a jamais vue, la Shekinah dévoilée, de telle sorte qu'Apocalypse 6 dit que les gens crient aux montagnes de les couvrir et de les cacher de la face de celui qui est assis sur le trône, celui qui vient dans une gloire éblouissante. Et je crois que ce n'est nul autre que le Seigneur en personne. Ils en ont reçu un aperçu, vous en souvenez-vous, en Matthieu 17, où la transfiguration est décrite. Jésus a pris avec lui Jacques, Pierre et Jean, au haut de la montagne, a retiré le voile de sa chair, et ils ont contemplé sa gloire, et ils ont eu un avant-goût de ce que serait la Shekinah de la seconde venue, et n'était qu'un petit avant-goût, et Pierre ne l'a jamais oublié. Et vous vous souvenez que lorsqu'il a écrit 2 Pierre, il disait que ce n'était pas avec des fables habilement conçues que nous sommes venus vers vous. Nous ne vous racontons pas des mensonges inventés par des hommes, mais nous avons été des témoins visuels de sa majesté sur la sainte montagne. Nous avons eu un aperçu de la gloire du retour. Mais c'est le meilleur que les hommes ont eu, en réalité. Adam en a eu un aperçu dans le jardin, lorsqu'il marchait et parlait en présence de Dieu, dans la fraîcheur du soir. Le peuple d'Israël a eu un aperçu de la gloire lorsqu'elle demeurait entre les ailes des chérubins, dans le Saint des Saints, du tabernacle et du temple. Ils l'ont vu dans la colonne de nuée qui les conduisait le jour et le feu qui les conduisait de nuit. Ils l'ont vu aussi quand la gloire de Dieu est partie. Mais le monde n'a jamais vu la gloire sans voile, et le monde la verra à ce moment-là. Donc le signe sera la gloire du Seigneur Jésus-Christ, venant en majesté. On pourra le distinguer. Il sera reconnaissable, et cependant, il sera en pleine gloire. Il est dit aussi, notez-le, à la fin du verset 30, qu'il viendra sur les nuées du ciel. Sur les nuées du ciel. Acte 1, 9 à 11 dit qu'il viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Il est parti dans les nuées. Il viendra dans les nuées. Daniel dit qu'il viendra avec les nuées du ciel. Daniel 7, 13. Jean dit qu'il viendra avec les nuées. Apocalypse 1, 7. Marc dit qu'il viendra sur les nuées. Marc 13, 26. Luc dit en 21-27 qu'il viendra sur une nuée, et Matthieu dit qu'il vient sur les nuées du ciel, ici, et plus loin au chapitre 26, verset 64. Donc tous les auteurs s'accordent pour dire qu'il vient entouré de nuées. Vous direz, à quoi ça sert? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est leur manière de décrire la vision de cette glorieuse Shekinah. Mais c'est une sorte de nuage, un nuage de lumière, une nuée de gloire. Je pense que ce sont des nuages spéciaux. Vous savez, l'Ancien Testament nous dit que les nuées sont les chars de Dieu. C'est une image frappante. Au psaume 104, vous vous souvenez ce qu'il est dit? Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. L'Éternel s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend le ciel comme une tente. Il construit sa demeure au-dessus de l'eau. Il fait des nuages son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Quel langage expressif, magnifique. Et Ésaïe 19:1 dit, l'Éternel monte, un nuage rapide. Ainsi la scène est indescriptible. Le monde est en pleine panique. Partout les gens meurent tout simplement de terreur. Ils sont dans l'obscurité totale. Et seul le Seigneur les tient assez fortement pour qu'ils puissent voir le reste de ces événements. Et au milieu de ce noir chaos, apparaît la gloire du Fils de Dieu dans le ciel, en absolue majesté, une présence de la sainte Shekinah révélée, et montée sur le char de Dieu, les nuées. Elle apparaît dans le ciel, et sans aucun doute elle circule sur toute la planète, parce qu'il est dit dans Apocalypse 1, 7, que tout œil croit, le verra, tout œil le verra, c'est le signe. Encore une fois, pour comparer avec un texte de l'Ancien Testament, ouvrez votre Bible un instant à Zacharie 14. Dans certaines versions, la traduction de l'hébreu ne peut pas être très claire, mais si l'on traduit littéralement de l'hébreu, on a une description très claire. Écoutez bien. Zacharie 14, 6 dit ceci, c'est fascinant, dans le texte littéral de l'hébreu. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. C'est exactement ce que Jésus disait. Plus de soleil, plus de lune, plus d'étoiles, tout est éteint. Zacharie dit qu'il n'y aura pas de lumière. Les choses précieuses s'affaibliront. Note de Bible du Semeur. Voilà la suite dans l'hébreu littéral. Ou bien on pourrait le dire ainsi. Ce qui luit va faiblir. De toute manière, cela se rapporte aux étoiles, au soleil et à la lune. Tous les luminaires s'éteignent. Il est dit, ce jour-là, ce n'est pas un jour de 24 heures, c'est un jour prophétique, une ère, une période où le Seigneur arrive. Nous savons que c'est le moment de la venue du Seigneur, parce que c'est le sujet de Zacharie 14. Il suffit de lire le verset 4 pour le vérifier. Donc plus de lumière, tout devient noir. Zacharie l'a aussi vu, tout comme Ésaïe, et comme Joël, tout comme Agée, et tout comme Jean l'a vu. Ensuite au verset 7, écoutez bien. Et ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Et ce qu'il dit, c'est que personne ne pourrait décrire ce jour. Personne ne pourrait comprendre ce jour. Il n'y a aucune explication scientifique pour ce jour. Aucun humain ne pourrait complètement comprendre ce jour. C'est un jour que seul le Seigneur peut expliquer. C'est un jour connu de lui seul. Il n'y a aucun moyen de le comprendre. Et il dit encore ceci au verset 7. Il ne sera ni jour ni nuit. Ce n'est pas le jour. Et ce n'est pas la nuit. Il ne peut être aucun, car il n'y a plus de corps céleste. Donc il ne peut y avoir de soleil, il ne peut y avoir de lune, il ne peut y avoir d'étoiles. Donc il ne peut y avoir de jour, et il ne peut y avoir de nuit. Donc ce n'est ni jour ni nuit. C'est pourquoi Jérémie, chapitre 30, dit au verset 7, « Quel malheur ! Voilà le grand jour ! Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est un jour que personne ne peut connaître. » Et que personne ne peut décrire, et il n'y a rien pour l'expliquer. Mais, dit le verset 7 de Zacharie 14, ce sera le moment du crépuscule, vers le soir, au moment de la fin du jour. Il y aura de la lumière, et à la fin de cette ère, à la fin de cette période prophétique, la lumière viendra. Donc Zacharie voit la même chose. Tout devient obscur. Personne ne peut comprendre ce qui est arrivé. Il n'y a pas d'explication humaine. Seul Dieu sait. Ce n'est ni jour ni nuit. Puis vient la fin de cette période d'obscurité, la lumière vient. Et quelle est cette lumière? C'est le signe du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, arrivant du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Majesté révélée. Oh, quelle lumière! Vous direz, à quel point est-elle brillante? Eh bien, en Apocalypse 21, verset 23, Apocalypse 22, verset 5, il nous est dit que dans la ville éternelle de Jérusalem, dans la demeure éternelle des rachetés, dans les cieux des cieux, pour toujours et à jamais, il n'y a aucune lampe, il n'y a pas de lumière, car l'agneau lui-même sera sa lumière. Or, si le Seigneur Jésus éclaire pour toujours les nouveaux cieux éternels, ce doit être une brillance plutôt puissante, c'est tout ce dont on a besoin, et il remplira les cieux entiers de la gloire de sa lumière. Vous dites, waouh, je voudrais bien voir ça. Je ne vous blâme pas. Je veux vous dire ceci. Nous serons enlevés, je crois, 7 ans avant que cela n'arrive. Mais ne soyez pas trop déçus. Je crois que l'Église est enlevée avant le début de la tribulation. Je crois que nous serons déjà avec le Seigneur. Nous aurons le repas des noces de l'agneau. Nous aurons un moment de récompense. Nous serons avec lui parce qu'Apocalypse 3:10 dit que nous serons gardés de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Version Colombe. Nous serons gardés de cela. Nous serons délivrés, dit 1 Thessaloniciens 1:10, de la colère à venir. Donc je pense que nous serons avec le Seigneur, et il y a encore bien des raisons à cela. Vous direz, bon, vous voulez dire que nous ne le verrons pas. Eh bien, laissez-moi répondre à cette question ainsi. Regardez dans votre Bible, à Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, d'accord? Lorsqu'il apparaît là, quand il vient dans sa gloire, et il apparaît au monde entier, alors vous paraîtrez aussi avec lui, où? Dans la gloire. Oh, les amis, c'est une immense vérité. Lorsqu'il apparaît, vous qui le connaissez et l'aimez, vous qui avez été ressuscité avec Christ, verset 1, vous qui êtes vivant en Christ, verset 3, vous qui connaissez le Sauveur, et il est votre vie, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Vous n'êtes pas ici-bas, vous êtes déjà là-haut, et lorsqu'il vient dans sa gloire, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Vous direz, c'est formidable. Il faut que je me trouve un costume neuf. Je dois être vêtu convenablement pour ce jour. Vous avez raison. Allez à Apocalypse 19. Vous n'avez pas besoin de faire des courses. Une tenue vous attend déjà. En Apocalypse 19, verset 7, nous avons un tableau du repas des noces de l'agneau où le Seigneur rejoint son Église rachetée, son épouse. Cela s'appelle les noces de l'agneau. L'épouse est prête. Et lorsque l'épouse entre dans la présence du Seigneur, lorsque nous, l'Église, sommes enlevés et emportés dans sa présence, il est dit au verset 8, « Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant et pur. » En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, lorsque l'Église est emmenée dans la présence du Seigneur au repas de noces, quand nous nous asseyons avec le Seigneur pour communier avec lui durant ces 7 années de tribulation sur terre, comme nous sommes délivrés de la colère à venir, nous avons été sauvés de la condamnation qui vient sur la terre. Nous sommes en communion avec le Seigneur, nous sommes récompensés et nous sommes vêtus de fin lin. Ensuite, lorsqu'il revient, allez au verset 14, « Et les armées célestes des âmes déjà rachetées, et je crois qu'elles incluent l'Église, et je crois qu'elles incluent aussi les saints rachetés de l'Ancien Testament, qui sont les invités au repas de noces. Vous n'avez pas besoin d'inviter l'épouse, elle sera déjà là, mais il y aura aussi une liste d'invités, verset 9. Heureux ceux qui sont aussi invités au festin de noces, les saints de l'Ancien Testament. Donc les saints de l'Ancien Testament, qui sont rachetés, et l'ensemble de l'Église sont là, tous vêtus de robes de fin lin, blancs et purs, symbolisant leur perfection en pureté et en justice. Et nous arriverons tous au ciel, montés sur des chevaux. Vous aurez chacun votre robe et votre propre cheval blanc. Donc vous serez là, seulement vous serez en haut, regardant vers le bas, et non en bas, regardant vers le haut. Certains qui n'étaient pas prêts au moment où le Seigneur enleva son Église, qui n'étaient pas rachetés, seront laissés ici. Beaucoup mourront, mais d'autres seront sauvés, et beaucoup de rachetés regarderont vers le haut. Il y en a certains qui seront rachetés ce jour-là et qui seront sauvés de la tribulation, et qui ne seront pas tués par l'Antéchrist, et qui ne seront pas tués par les persécuteurs, les traîtres et ceux qui haïssent Dieu. Et ils survivront, protégés par Michel, protégés comme les 144 000, protégés par la miséricorde et la grâce de Dieu. Il y aura des Juifs et des non-Juifs, et ils seront protégés. Et lorsqu'ils le verront dans le ciel, ils se réjouiront. Mais le monde criera dans une terreur et une peur absolue. Quel jour, quel jour! Ainsi nous reviendrons. Il n'y aura plus de moqueurs pour dire « Où est la promesse de son retour ?» Il n'y aura plus de moqueurs. Laissez-moi vous donner encore un quatrième mot. Force. Oh, voilà un mot important. Remarquez très brièvement vers la fin du verset 30. Il vient avec beaucoup de puissance. C'est le mot force. Je veux dire, pouvez-vous imaginer la puissance nécessaire, ne serait-ce que pour faire chanceler, pour faire dévier toute la terre de son axe? Il possède la puissance sur tout l'univers créé. Il a le pouvoir sur Satan. Il a le pouvoir sur les démons. Il a la puissance pour faire mourir tous les incroyants impies du monde entier. Il rejette Christ. Il a la puissance pour établir son royaume. Il a la puissance pour racheter ses élus. C'est une puissance sans égale. Une immense, fantastique puissance. À aucune autre pareille. Il vient avec les saints anges. Il vient s'asseoir sur son trône de gloire, dit le verset 31 du chapitre 25. Une immense puissance. En fait, Ésaïe l'appelle, au chapitre 63, le jour de vengeance de notre Dieu, lorsqu'il piétine le raisin dans la cuve de sa colère. Vous savez, une pensée encore. Lorsqu'il vient, sa puissance est telle que tout ce qui a été dévasté dans le chaos de l'obscurité et dans le chaos de la terre est aussitôt remis d'aplomb. Quand ses pieds touchent le mont des Oliviers, dit Zacharie, tout se remet en place. Ses pieds touchent le mont des Oliviers, Zacharie 14, 1, 4. Merveilleux! Il revient exactement là où il est parti. C'est là qu'il va établir son royaume. Il arrive une épée sortant de sa bouche, dit Apocalypse 19. Et il tue tous les impies et les opposants qui ne sont pas déjà morts. Il les amène à un grand jugement, ce que nous lirons quand nous serons au chapitre 25. Ils sont envoyés dans l'enfer éternel. Ensuite, il établit la gloire de son royaume. Il met fin au péché, dit Daniel 9, 24. Il termine la transgression. Il apporte la justice éternelle. Il établit son royaume pour toujours et à jamais. Mais j'aime beaucoup penser au moment où il touche le mont des Oliviers, parce que je m'y suis rendu si souvent sur ce mont des oliviers. Quand il touche le mont des oliviers, il se fend tout simplement. Il se fend en deux. Et dans Zacharie 14, il est dit qu'une vallée se creusera entre la mer Méditerranée et la mer Morte, où l'eau coulera librement. Lorsque nous étions là-bas, on nous a dit qu'on essayait de creuser un canal actuellement pour amener de l'eau de la Méditerranée, un canal ou un pipeline, pour amener de l'eau de la Méditerranée vers le désert. Eh bien, ils attendent un peu. Ils pourraient économiser une formidable somme d'argent, parce que le Seigneur a le même projet. C'est un assez bon projet, honnêtement, parce que c'est dans le plan de Dieu. Vous voyez, Ésaïe 35 dit que le désert fleurira comme la rose. Ils essaient d'accomplir Ésaïe 35 avec le projet d'une construction. Lorsque le Seigneur vient, il fend le mont des Oliviers, crée une vallée. La Méditerranée se vide dans le désert, et en été comme en hiver, il y a de l'eau dans tout le désert. Et puis la mer Morte est si basse, elle se remplira, et elle devrait devenir un immense lac. Et toute cette région aura assez d'eau pour l'irrigation, et il n'y aura plus de désert dans le millénium, le royaume. Un canal de la Méditerranée jusqu'au désert, ce n'est qu'une chose. Le lion se couchera avec un agneau, les enfants joueront avec des serpents venimeux, sans être mordus. Les gens vivront longtemps. Une terre restaurée. Telle est la puissance, telle est la force. Un autre mot clé, lamentation. Pouvez-vous prendre un instant pour voir ce mot, se lamenteront. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Lorsqu'il viendra, il y aura de la tristesse. Je vous ai déjà parlé de la tristesse des non-juifs non sauvés. Pour la plupart, ils seront tout simplement terrifiés. Ils ne feront que crier pour être protégés de cela. La plupart ne seront pas repentants. Ils maudiront Dieu. Ils hurleront contre Dieu. Ils blasphémeront Dieu, est-il dit dans Apocalypse. Et ils diront, comme le dit Apocalypse 18, « Oh, malheur, malheur, Babylone, qui est notre système mondain. Babylone est tombée. Il n'y aura plus de musique. Il n'y aura plus de disques. Il n'y aura plus d'enregistrement donnant de la musique. On ne jouera plus d'instruments. La musique, tout à coup, va cesser dans le monde entier. » Parce que la terreur sera si atroce, la peur sera si forte, il n'y aura plus de chants à chanter. Donc les non-juifs se lamenteront, mais les juifs se lamenteront également. Et Zacharie 12 dit, « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Et quoi ? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils vont se rendre compte qu'ils ont transpercé leur Messie. » Ensuite il est dit dans Zacharie 13, 1, qu'une source, de purification leur sera ouverte. Leur rédemption va approcher. Et je crois que c'est à ce moment-là que toute l'œuvre des 144 000 et le fruit de l'Évangile éternel prêché par un ange surnaturel se rassembleront, et ils le verront. Et à ce moment-là, tout Israël sera sauvé. Comme le dit Romains 11, tout Israël sera sauvé. Leur rédemption viendra, et ils pleureront d'avoir crucifié leur Messie. Certains pleureront pour leur salut. Ce sera une tristesse divine, un chagrin divin menant à la repentance. Et enfin, le dernier mot pour le temps qui nous reste aujourd'hui, sélection. Verset 31. Lorsqu'il a tout jugé et que la lamentation a eu lieu, la lamentation de ceux qui meurent dans le jugement éternel, la lamentation de ceux qui se repentent, il enverra ses anges. Les anges en passant sont les moissonneurs de Dieu. Ce sont ses rassembleurs d'hommes. Au 13e chapitre de Matthieu, nous les trouvons dans plusieurs paraboles. Envoyés pour rassembler des gens pour le jugement, pour les amener devant Dieu. Dans ce cas-ci, il ne les rassemble pas pour être jugés, il les rassemble pour la gloire. Et au son d'une trompette, le moyen connu des Juifs pour convoquer du monde, pour appeler une assemblée. Quand elle résonne, les anges messagers de Dieu vont rassembler ses élus, les rachetés qui ont été dispersés partout au cours du travail des 144 000 envoyés pour prêcher sur la terre. Il y en a qui ont été rachetés. Et pendant la prédication de l'ange éternel, il y en a qui ont cru. Et ils sont encore partout sur la terre, beaucoup se cachant encore devant la terreur de l'Antéchrist. Et les anges vont partout pour les rassembler des quatre vents, une expression populaire qui équivaut à rassembler des quatre coins du monde, nord, est, sud et ouest, et pour les rassembler d'une extrémité du ciel à l'autre. Une autre façon de dire que c'est de partout. Personne n'est oublié. Le Seigneur envoie les anges pour rassembler tous ceux qui sont sélectionnés, ses élus sélectionnés pour son royaume éternel. Et beaucoup ressusciteront. Je crois que les corps des saints de l'Ancien Testament sortiront des tombeaux pour être reliés à leur esprit, rachetés pour entrer dans la gloire de son royaume éternel. Ainsi le Seigneur rassemblera son peuple de partout dans le monde, pour les faire entrer dans le royaume. Voilà la description que le Seigneur fait de sa seconde venue. Quel événement fantastique! Maintenant les disciples ont reçu le signe. C'est quand vous voyez le Fils de l'homme dans le ciel. Ils n'ont pas vécu pour le voir. Vous et moi, par la grâce de Dieu, si nous sommes rachetés, nous serons levés avec l'Église. Je n'ai pas vraiment envie de vivre sur cette terre pour le voir, parce que je n'ai pas envie de traverser la tribulation. Je préférerais être avec le Sauveur plutôt que d'être ici pour satisfaire ma curiosité. Et si je suis si curieux à propos de la tribulation, au point de changer ma théologie, je suis tordu, car il y aurait longtemps que je serais avec Jésus-Christ. Les amis, je ne vous dis que ceci. C'est ainsi que tout se terminera. Cela ne peut être dans très longtemps. Et si nous vivons encore 7 ans avant que cela arrive, nous ferions bien de nous y préparer. Soit vous serez avec lui dans la gloire, quand vous entrerez dans son royaume, soit à votre mort d'une crise cardiaque, provoquée par la terreur, vous serez jeté hors de son royaume, envoyé dans un enfer éternel, comme il le dit dans les derniers versets du chapitre 25, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, et un châtiment éternel. Le monde accomplit assez bien le plan historique de Dieu, et vous devez vous demander, où en êtes-vous? Je veux dire que c'est une affaire sérieuse. Votre destinée éternelle est en jeu, et c'est exactement comme ça que tout finira. Ferez-vous partie du désastre ici ou de la gloire là-haut? C'est à vous de choisir. Par la grâce de Dieu, comme l'Esprit inclinera votre cœur, je prie que vous répondrez au Sauveur. Inclinons-nous pour prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir révélé tant de choses. Nous n'avons pas besoin de vivre dans le noir. Nous demandons ce qui va arriver. Nous savons ce qui arrivera, parce que tu nous l'as dit. Ô Seigneur, quelle responsabilité est la nôtre de vivre à la lumière de cette éternité. Que nous puissions guetter la manifestation glorieuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Guetter le jour où nous pourrons être avec lui et ne pas vivre dans la crainte de ce qui peut arriver, parce que nous aurions rejeté le Sauveur, dont le seul désir est de nous donner son amour et sa grâce, le pardon, la paix, la joie et la bénédiction.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.